Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici l'histoire d'une maman face à la maladie mentale de son fils, Charles, diagnostiqué schizophrène. Une histoire que je tire du livre de Bénédicte Chenu, « Des lumières sur le ciel », qui paraît aux éditions Le Duc. Elle nous raconte son parcours, des premiers signes dans l'enfance de Charles, jusqu'à son adolescence de fumeur de pétard, le diagnostic, bien difficile à obtenir, le monde de la psychiatrie, divisé et déroutant, et cette méthode appelée « pro-famille » qui, dit-elle, l'a sauvée. Simon Veil m'a aidé à écrire cette histoire. La réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Du plus loin que je m'en souvienne, Charles a toujours été turbulent en classe, de la crèche jusqu'au lycée. Ses bulletins scolaires saluaient son intelligence, mais déploraient son potentiel inexploité. Bon élève, mais peut mieux faire. Mais tous disaient qu'il était attendrissant. Bon garçon, dans le fond. Et l'inverse d'un asocial, hein, l'inverse d'un enfant replié sur lui-même. Hein. Au contraire, il était bout en train, il avait beaucoup d'amis, il était joyeux, spontané, vif. Dès qu'il a su marcher, à 9 mois, il s'est mis à courir. Quand il montait un escalier, il comptait les marches.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Et à l'inverse, il les décomptait à la descente.
6, 5, 4, 3, 2, 1.
Vers 3 ans, je lui racontais l'histoire d'un petit ours, le soir avant de dormir. Eh bien après, il ouvrait le livre et il articulait les phrases au mot près, comme s'il savait lire. Cette mémoire, ça m'épatait. En grandissant, c'est devenu un cinéphile affûté. Ça a commencé par Bambi et le Roi Lion. Et à 14 ans, il est devenu pointu. Woody Allen, sans jamais non plus jouer les intellos. Au niveau du collège, on s'est dit avec son père, dont je suis séparé, qu'un cadre sévère pourrait l'aider à se discipliner. Alors on l'a inscrit en internat au collège Le Prieuré, dans notre village familial du Loir-et-Cher. Il se sentait plutôt bien là-bas, mais l'école l'ennuyait. Alors il perturbait la classe, les avertissements ont commencé à tomber, et il s'est fait exclure. Et en partant, il a laissé une lettre pour le surveillant. Au revoir. Je vous remercie de m'avoir collé 45 fois. Il s'est aussi fait exclure, au bout de 3 mois, de l'internat Sainte-Marie de Blois, qui avait accepté de le prendre. Et quand il l'a exclu, le directeur a eu une sorte de prémonition.
Je n'en suis pas certain, hein. Mais si vous voulez, à mon sens, c'est plus qu'une crise d'adolescence, hein, vous voyez. Il y a quelque chose de plus profond, hein, de plus grave, je crois. De plus compliqué, je pense.
Je ne fais pas de lien de causalité, mais l'apparition des premiers signes de son mal-être coïncide avec la mort de son cousin Clément. D'un coup, il se met à maigrir. Je lui en parle.
Oh, ça va.
Et il se met à fumer du cannabis. Au début, je le mets en garde, tout en me souvenant de l'adolescente insoumise que j'étais dans les années 80. Mais moi, je percevais les limites, pas lui. Son addiction au cannabis finit par me dépasser. Sa chambre, sa grotte, devient un fumoir. Et moi, je ne peux pas faire autre chose qu'assister impuissante à son glissement vers un état de plus en plus dépendant. Il maigrit toujours. Il n'a aucun intérêt pour ses études au lycée. Un jour, ma sœur me dit
« Tu crois pas qu'il devrait consulter un psy ?»
Et donc, je prends rendez-vous chez un psychologue. Au bout de 3 séances, le psychologue propose un rendez-vous à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
À l'hôpital ? C'est si grave que ça? Écoutez, je crois que le profil de Charles échappe un peu à ma compétence. Je crois qu'il a besoin d'une hospitalisation. Mais qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas. On ne peut pas savoir à ce stade. Je crois qu'il faut le mettre en observation et tenter de comprendre ce qui se passe en lui.
Quand son père annonce ça à Charles...
Dégage! Fous-moi la paix!
Et à partir de ce moment-là, on sent qu'il est en train de basculer. On ne sait pas poser des mots dessus, mais quelque chose se brouille entre notre monde et le sien. Il s'éloigne. Il est de moins en moins présent. On se dit, on va plutôt aller dans une clinique privée, en dehors de Paris, dans un cadre agréable, verdoyant. Tiens, par exemple, le château de Bel Air à Crosne, dans l'Essonne.
Oui, bien sûr, oui. Mais préalablement, il faudrait qu'il écrive une lettre de motivation, hein? Qu'il manifeste sa motivation à venir chez nous dans un courrier.
Et là, je tombe des nues. Enfin, il est confus, il ne sait pas se concentrer. Évidemment, il est inconscient de son trouble, il est incapable de rédiger une lettre de motivation. Incapable! On abandonne, à regret.
Sur les conseils d'une amie journaliste, je me tourne alors vers le célèbre pédopsychiatre de Marseille, Marcel Ruffo. Il nous reçoit à sa manière, sympathique, enveloppant. Il parle à Charles d'égal à égal.
Finalement, Charles, ça n'est pas si mal, hein, n'est-ce pas, que vous ayez fumé, ça nous a permis de comprendre que vous étiez fragile, hein, et que vous ne pouviez pas fumer de cannabis pour l'instant. Vous êtes trop fragile.
Ruffo rédige ensuite une lettre, une sorte de contrat. Bien dormir, bien manger, retourner à l'école et ne pas fumer de cannabis.
Voilà, Charles. Si vous avez besoin, vous pourrez être hospitalisé ici, hein? Prenez soin de vous.
J'avoue que je sors un peu déçu de ce rendez-vous. Enfin, je ne sais toujours pas ce qu'il a. De retour à Paris, une amie de ma sœur m'oriente vers l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. On y revient, comme nous l'avait préconisé le psy. Et donc, le 16 mars 2009, Charles a 16 ans et demi, et avec son père, nous l'amenons à l'unité Seguin de l'hôpital de la Pitié, un service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Il est un peu perdu, mais il semble s'y résoudre. On est accueilli par Laure Adage, une psychiatre d'une quarantaine d'années. C'est elle qui va le suivre. Et là, je découvre le monde de la psychiatrie pour enfants des hôpitaux publics français. Mon Dieu! Vous avez vu vol au-dessus d'un nid de coucou? Eh bien, vous remplacez Jack Nicholson et ses amis par des enfants. Le plafond bas qui écrase tout, les trousseaux de clés qui tintent à chaque fois qu'une porte s'ouvre ou se ferme, et dans la salle dite collective, tous les clichés de la folie. Les bruits, les cris, un gamin qui se tape la tête contre un mur, un autre qui insulte sa peluche. Est-ce que c'est vraiment ici que mon fils se soignera? Comment peut-on guérir dans un endroit comme ça, aussi sale, aussi insensé? La chambre de Charles ressemble à une cellule de prison. Aucune décoration, aucune couleur, aucune fleur. Dans les chambres des enfants malades du cancer, on met des dessins au mur, chaleureux. Pas là. Charles pose sa valise sur un maigre matelas enveloppé d'une couverture de l'assistance publique et il sort un livre, La Métamorphose de Kafka, qu'il aura en vain l'obsession de finir. Et entre deux portes, le docteur Adage nous annonce
« Bien, son séjour ici va durer entre 2 et 3 mois. Donc il va falloir qu'il continue sa scolarité. On a des cours ici, à l'hôpital. »
Et moi ? Je commence mes allers-retours, maison, hôpital. Je lui apporte du linge propre et des gâteaux. Et à chaque fois,
« J'ai envie de sortir, maman. J'ai envie de sortir. »
Je lui réponds que ça n'est pas moi qui décide.
je ne la supporte pas, cette psy. Leur adage. D'abord, elle parle trop vite. Mais surtout, elle parle trop vague. Et elle pose des questions. Et combien de temps a duré mon accouchement? Et est-ce qu'il y a eu des complications? Et quel âge avait le père? Est-ce qu'il a eu des maladies? Est-ce que je travaille? Comment s'est passé le divorce? Je comprends, hein, qu'elle pose toutes ces questions. Mais moi, ça me culpabilise. Et quand moi, en retour, je lui demande « Mais qu'est-ce qu'il a, Charles ? Quel traitement on va lui donner ? Quel dosage ? Quels effets secondaires ? Quel danger ?» Eh ben, elle n'a pas le temps de développer, hein ? Elle n'a pas le temps d'être claire. Le premier week-end de permission, je récupère une marionnette, inanimée, les bras ballants, les neuroleptiques. Il grignote de manière compulsive, il a le regard perdu. Charles a disparu. Il a disparu sous l'effet des psychotropes. Écoutez, docteur Adage, je veux savoir ce qu'il a. J'exige d'avoir accès à son dossier médical. Enfin, en tant que parent, on a le droit de savoir. Et là, elle condescend à me transmettre un compte-rendu. Épisode psychotique dans un contexte de consommation de cannabis, point. Si cet épisode se prolonge au-delà de 6 mois, virgule, un diagnostic plus précis pourra se poser. Et là, la fatigue, le stress, je pique une grosse colère. Enfin, ça fait 2 mois et demi qu'il est là et on ne sait pas où on va. Elle me regarde d'un air stupéfait et elle m'oriente vers le patron de son service qui nous sert un mélange de psychiatrie et de psychanalyse. Fumeux, abstrait, je ne comprends rien. Encore un rendez-vous complètement nul. Charles sort de l'hôpital le 28 mai, un peu plus de 2 mois après son entrée. Et ils nous le rendent réglé comme une machine. Déjeuner à midi, dîner à 19h. Quand est-ce qu'on mange ? Et il s'assoit à table en attendant l'arrivée du plat. Mon propre psychiatre m'explique qu'il a besoin de régularité et de sécurité. Alors, je me transforme en ménagère qui chouchoute son enfant. Pendant l'été qui suit, il plonge dans l'oisiveté la plus totale. Il se réveille tard, il mange, il joue à la PlayStation, sa télé est allumée en permanence. Alors, j'achète 2 billets de bus pour l'Espagne, et on part tous les deux. Mais il emporte des barrettes de shit, et quand je lui rappelle que c'est mauvais pour sa santé, il me répond « mouais » avec mollesse. Et chaque fois que le bus fait un stop, je le soupçonne d'aller se cacher pour fumer. Et chaque fois que le bus redémarre, j'ai peur qu'il ne remonte pas. J'ai toujours peur de le perdre. Charles a maintenant 18 ans. Il est majeur. Et donc, il ne peut plus être suivi en pédopsychiatrie à la Pitié. Nous sommes réorientés vers l'établissement de notre secteur, l'Association de santé mentale du 13e arrondissement de Paris, dont on me dit que c'est un bastion psychanalytique. Méfiance. Alors je cherche une autre solution. Et un ami d'amis m'en propose une.
Vous devriez vous rapprocher du SHU de l'hôpital Sainte-Anne. Ils sont à la pointe de la recherche en psychiatrie, vraiment. Essayez de voir le docteur Machefaux.
Je note son nom. Un dimanche soir du mois de juin, je rentre chez nous, j'appelle l'ascenseur, et quand j'arrive au 4e étage sur notre palier, je vois un meuble en vrac. Le bureau de Charles, il l'a démonté intégralement. Charlie ? Charlie, tu es là ? Qu'est-ce que tu fais, Charlie ? Il est enfermé à l'intérieur. Il ne veut pas m'ouvrir. Charles, s'il te plaît, laisse-moi entrer ! Je redescends, je lève la tête, et je vois sa tête hirsute qui se penche dans le vide. Le lendemain, j'appelle SOS Psychiatrie. Le médecin se déplace avec des policiers. Et cette fois, il nous ouvre. Et il suit le médecin. Et j'obtiens qu'on le conduise à Sainte-Anne sous la responsabilité de ce docteur Machefaux, dont on m'a tant parlé. Le docteur Machefaux est un homme grand, sec et lancé, avec des yeux bleus. Il dégage un calme, et il a une manière de s'exprimer qui est limpide, solide. Il m'inspire aussitôt confiance. Il s'assoit à côté de Charles, d'égal à égal. Alors Charles, bon d'abord je préconise de vous donner du Léponex, hein, ça va vous soulager. Et personnellement, hein, j'émets l'hypothèse que vous avez ce qu'on appelle une schizophrénie.
Une schizophrénie?
Je suis abasourdi. Évidemment, je suis bourré de préjugés sur cette maladie. Je suis comme tout le monde, hein. Tant qu'un sujet ne m'a pas touché de près, je ne m'y intéresse pas.
Une schizophrénie?
Je crois que je préférerais un cancer. La schizophrénie, c'est effrayant. Les schizophrènes sont des fous.
Mais docteur, vous pouvez vous tromper, non?
Il encaisse sans broncher. Et puis il se tourne vers Charles. Vous savez, Charles, vous allez recouvrer toutes vos capacités, hein. Vous allez retrouver le goût des choses que vous aimez faire, des livres que vous aimez lire, tout ça, hein. C'est une maladie qui se soigne, Charles. C'est une maladie dont vous pouvez guérir.
Et là, il se tourne vers moi.
Vous connaissez le programme Pro Famille?
Non.
Je suis à mille lieues d'imaginer le long parcours dans lequel la maladie de Charles est en train de m'embarquer. Le séjour de Charles à l'hôpital Sainte-Anne dure 2 mois et demi.
Bien, Charles, je vais vous laisser sortir parce que vous allez mieux. Mais vous devez absolument arrêter de fumer du cannabis. Hein, ça n'est pas bon pour vous du tout. Donc vous sortez de l'hôpital, mais je garde un œil sur vous. Hein. Vous viendrez toutes les semaines faire une prise de sang pour vérifier votre consommation de cannabis. Et je vous préviens, si vous dérapez, vous reviendrez et vous resterez.
Charles obtient l'allocation adulte handicapé, 800 euros par mois. Il va mieux, le Léponex semble lui réussir. Et moi, je m'inscris au programme Pro Famille, dont m'a parlé le docteur Machefaux, qui est un programme psycho-éducatif pour les familles qui ont un proche qui souffre de schizophrénie.
Je vous inscris, mais je vous préviens. On n'a pas de place pour l'instant, pas avant septembre 2013.
Ce programme n'est proposé qu'à 3% des familles concernées en France. Quelques mois plus tard, Charles commence à décliner. Et moi, en attendant l'accompagnement pro-famille, je suis toujours livré à moi-même. À un moment, eh ben, je me tourne vers mon établissement de secteur, l'association de santé mentale du 13e arrondissement, où on m'oriente vers une psychiatre en charge des jeunes adultes.
Moi, madame, je ne vais pas vous cacher mon point de vue. Hein, je pense que le docteur Machefaux s'est trompé. Je pense que Charles n'est pas schizophrène. Et personnellement, j'opterais plutôt pour sans doute une psychose infantile. Et dans ce cadre d'ailleurs, je voudrais vous proposer une approche psychanalytique, hein, pour faire émerger le désir qui est en lui. Et d'ailleurs, peut-être qu'il irait mieux s'il allait vivre chez son père. En attendant, je voudrais qu'il arrête le Léponex.
Je contiens un rire nerveux. La dame appartient manifestement à une génération de psychiatres qui défend l'idéologie intellectuelle de l'après-68, selon laquelle la psychose, la schizophrénie, est un fait social. C'est un refus de la famille, un refus de la société. Ce rendez-vous m'assomme. Tout se casse la figure. Je commence à comprendre que la maladie de Charles échappe au cadre d'une science exacte. J'écris alors au directeur de l'association de santé mentale du 13e arrondissement. Est-ce qu'il a une schizophrénie, oui ou non? Voilà sa réponse. De façon générale, nos équipes sont réticentes à la formulation d'un diagnostic de schizophrénie de façon prématurée chez les grands adolescents, car seule l'évolution permet de confirmer une telle hypothèse, alors que le diagnostic peut gréver durablement l'idée que le jeune se fait de lui-même. C'est très clair.
et moi je ne sais plus du tout où j'en suis. J'en arrive à penser que le docteur Machefaux s'est trompé, mais j'hésite à le contacter parce que ce flou me plaît bien au fond. Je recule le moment de m'entendre confirmer le diagnostic. On m'a dit que la clinique de la Chênaie était très bien. Eh bien, va pour la clinique de la Chênaie, où d'emblée le psychiatre m'annonce. À mon sens, il faut minimiser les troubles de Charles, hein. Son cas n'est absolument pas grave. Tant mieux. Ici, l'ambiance est plutôt baba cool. Les soignants ne portent pas de blouse blanche. Les résidents se baladent dans le parc du matin au soir. Ils passent leur journée à fumer des cigarettes, à boire du café et à aller faire leurs courses au supermarché du coin. Une sorte de parking pour psychotiques. Charles pourrait très bien rester ici jusqu'à ses 40 ans. Mais après, qu'est-ce qu'il propose pour se rétablir? Eh ben rien. Il est en train de perdre son temps. Quelle foutaise! Il aura passé là 6 mois pour rien, si ce n'est pour mon confort. Ça y est, j'ai enfin commencé le programme Pro Famille que m'avait conseillé le docteur Machefaux. C'est un programme d'origine québécoise. Il est animé par une psychologue, Dominique Huillard. Une séance de 4 heures tous les 15 jours, pendant 2 ans. Alors, est-ce que la prochaine fois, vous pourriez m'apporter une photo de votre enfant avant le déclenchement de sa maladie et une photo de votre enfant après? Ça, c'est un exercice très cruel. Parce qu'avant, Charles ressemblait à l'acteur Louis Garrel, grand, svelte. On l'appelait le beau gosse. Et aujourd'hui, il a pris 20 kilos, son regard s'est figé, la forme de son visage s'est modifiée, sa sensibilité a perdu en expressivité. C'est douloureux, un tel changement chez son enfant. On est 12 autour de la table. Cyril, qui s'engage pour son fils, un grand-père qui se forme à la maladie de sa petite-fille, des couples dont les contradictions m'amusent pas mal, et à travers les récits des uns et des autres, je reconnais par petits bouts la maladie de Charles. Et petit à petit, mon doute sur le diagnostic s'estompe. Je m'habitue à l'idée que Charles est schizophrène. Et puis on nous donne des techniques concrètes, des solutions au problème. Vous savez, la prise en charge par la famille a un impact très bénéfique sur l'état du malade. Mieux la famille est formée, moins le malade rechute. On nous dit que le taux de rechute est divisé par 4 au bout d'un an et par 2 les années suivantes. On nous apprend par exemple la technique des 4 P qui signifie « Soyons prompts à être positifs pour des petits progrès ». Par exemple, quand je rentre le soir et que Charles a fait la vaisselle.
« Oh merci chérie, ça me fait bien plaisir et puis ça me soulage. »
S'il s'est rasé, je lui fais la remarque.
« Ah, tu t'es rasé ? Oh ben c'est bien, hein. Ça me fait plaisir de te voir comme ça. »
Charles est touché, il est encouragé par mes compliments. Ça change tout. Et puis avant, je m'épuisais à épier tous ces faits et gestes. Eh bien maintenant, j'apprends à lâcher le ballon. Je lâche prise. Un jour, Charles rentre du tennis. Il claque la porte, il est angoissé.
« Maman ! Maman, ils sont en train de me suivre ! » !»«
Mais qui, mon chéri ? » ?»«
Eh ben, les Chinois ! »
Avant, je lui aurais dit
« Oh, mais Charles, c'est dans ta tête !»
Ce qui revient à dire « Ton pull est vert » à quelqu'un qui porte un pull rouge. Aujourd'hui, je lui dis
« Ah ben, effectivement, moi aussi, je serais très angoissé si j'avais l'impression qu'on me suivait. »
C'est le principe de l'écoute réflexive préconisé par Pro Famille. Ce programme, Pro Famille, m'a sauvé. Sans lui, je serais sans doute en dépression ou à l'hôpital. J'ai tiré cette histoire du livre de Bénédicte Chenu aux éditions Le Duc, Des Lumières sur le ciel.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.